suis très heureux de vous retrouver sur La Nouvelle Génération. Bonjour, merci de nous choisir. Nous sommes toujours très heureux hein, quand nous savons que vous êtes très nombreux aussi à nous suivre sur la 93.5. Ça fait toujours plaisir et vous savez que c'est l'émission Club de la Presse qui démarre ainsi. Puisqu'il sommes 11h sur votre radio, nous sommes aujourd'hui alors au mercredi 25 septembre 2024 et Club de la Presse démarre ainsi pour le compte alors bien sûr de cette semaine. Troisième numéro, bienvenue au Club. Pour la coordination de l'émission de ce jour, Kiki Sosa assure la mise en onde. Jérôme Dakoutsa est à la mise en ligne. Je suis Pascal Lossou au micro. Salutations fraternelles à vous tous qui nous suivez partout au Togo grâce à nos radios partenaires. Radio Lumière à Andéro, Radio La Paix à Takwame, Central FM à Sokodé, Sky FM à Badou, Radio Daoul à Bassa, Sama FM à Niamtougou et puis Radio Courtoisie à Dabaon. Vous avez ce privilège de nous suivre aussi partout dans le monde grâce à nos différentes plateformes digitales, notamment notre chaîne YouTube et aussi notre page Facebook. Mais n'oubliez pas, nos radios partenaires en ligne aussi sont avec nous. Ce sont elles qui relayent cette information et vous nous écoutez bien sûr aussi à l'intérieur du pays et aussi au-delà de nos frontières. Il s'agit de Radio Les Bénins et Ibn Radio. De la presse, vous le savez très bien, c'est le décryptage, l'analyse, le débat sur l'actualité d'ici et d'ailleurs. Et c'est avec nos confrères journalistes en studio avec moi. Nous sommes au mercredi, Sylvestre Béni est là. Sylvestre, bonjour.
Oui, bonjour Pascal et bonjour à toutes et à tous.
J'espère que tu vas bien.
Oui, ça va. C'est vrai qu'on est un peu fatigué. Généralement, je crois qu'il faut le dire, si nous venons ici le mercredi, c'est véritablement un sacerdoce, un sacrifice. Parce que
tout
vous
à
voulez.
Fait.
Vous bouquez le mardi avec le stress, toute la psychologie qui va avec. Mais vous savez, comme nous aimons le Togo, chaque mercredi, nous sommes là.
Tout à fait. Nous vous sommes vraiment reconnaissants par rapport à ce sacrifice-là que vous faites chaque mercredi, enfin, chaque jour, parce qu'il y a beaucoup de confrères qui défilent dans ce studio pour discuter de l'actualité, analyser l'actualité, comme cela est évoqué, bien sûr, dans les presses ou dans les journaux. Estelle Koudronou, bonjour.
Bonjour Pascal, bonjour aux auditeurs, auditrices, bonjour aux confrères sur le plateau. Je n'oublie pas les techniciens derrière la baie vitrée.
Mais la fatigue se sent aussi, hein, à votre niveau.
Naturellement, hier, j'étais sous presse, donc il y a de quoi, mais le devoir appelle, on répond.
Tout à fait, le devoir appelle, on répond. Vous avez répondu à ce devoir, devoir civique. Et il y a Gadiel Tchernandi aussi qui a répondu à ce devoir. Gadiel, bonjour.
Pascal, bonjour et bonjour à tous qui nous écoutent, auditeurs, auditrices de Canal FM.
J'espère que vous allez bien.
Ça va, merci le Seigneur.
Déjà, merci beaucoup et merci d'avoir répondu à notre invitation. Abbas Issaka, bonjour.
Bonjour Pascal, bonjour à tous les auditeurs et auditrices de la radio Canal FM qui nous suivent en ce moment.
Et c'est toujours commandant, on n'a pas changé de grade.
Oui, c'est commandant, en attendant que ça évolue.
En attendant que ça évolue.
Notre grand soldat qui est ici là-bas m'a dit à ce que ça évolue.
La soldat est avec toi depuis.
Mais c'est elle qui va pousser.
Ah ben voilà, donc vous avez assez, enfin, une lourde charge.
J'espère pouvoir être à la hauteur de la charge.
Elle est brigadier.
Je me demande si elle, mais elle a des grades.
Elle a un grade.
Elle en a?
Oui.
Est-ce elle, si elle a au moins grade?
Non, le porte-parole est là, dans le village.
D'accord, nous démarrons cette émission avec la santé. Vous savez que chaque mercredi, nous parlons santé avec cette chronique que nous animons avec santé-éducation. Et santé-éducation a encore abordé des sujets de santé dans sa parution aujourd'hui. Alors, nous allons parler même d'ailleurs de cela. C'est pour cela que vous êtes avec nous, Gadiel Tonadi. Alors, Gadiel, vous parlez bien sûr dans cette parution 785. Vous parlez des conditions du don de sang, ce que nous devons savoir. Donc, il y a quelque chose à savoir en matière de don de sang.
Absolument. Nous faisons un article chaque mois pour faire la promotion du don de sang au Togo. Parce que vous savez que le Togo est toujours en pénurie. On n'a pas suffisamment de poches de sang pour prendre en charge ceux qui en ont besoin. Pourquoi? Parce que il n'y a pas beaucoup de gens qui... sont des donneurs. Donc, c'est un problème qui prend des années au Togo et il faut vraiment qu'on se réveille pour résoudre ce problème. Alors, si vous décidez d'être un donneur, vous devez savoir un certain nombre d'informations, un certain nombre de conditions. Donc, dans cet article, nous exposons l'essentiel des conditions dans lesquelles on doit être pour être un donneur de sang, selon l'âge, selon le poids, selon votre état de santé. Et quand vous voyez cet article, quand vous lisez l'article, je veux dire, il n'y a pas beaucoup de gens qui sont exclus pour être donneurs. Voilà. Tous, nous sommes d'office des donneurs. Maintenant, il faut prendre cette décision d'aller être pour donner pour faire un don de sang. Les conditions, elles sont tout à fait accessibles à tout le monde. D'abord, vous voulez être un donneur, vous allez au Centre national de transfusion sanguine, on vous prend et vous posez des questions, on vous informe, et puis il y a des tests, il y a des analyses qu'on fait, et puis si vous répondez, vous êtes un donneur. Et c'est très important, et c'est une occasion pour lancer encore un appel à nous tous, dans nos familles, c'est-à-dire que nos titres familiaux, Pascal Lossou, par exemple, dans votre famille de Lossou. Et puis, dans chaque famille, dans nos associations, dans nos corporations, aux services, dans nos institutions, que nous considérons que aller faire le don de sang, c'est un acte patriotique pour sauver des vies, peut-être même nos vies, c'est absolument important. Et pour avoir plus d'informations, le centre a un numéro vers le 84-12 qu'il faut appeler pour avoir plus de détails et être un donneur pour sauver des vies.
Parce que aujourd'hui, c'est parce qu'on n'a pas un élément qui fabrique aussi le sang qui est un liquide très vital pour l'homme. On n'a pas quelque chose comme élément essentiel pour fabriquer le sang dans les laboratoires. Donc c'est pour cela même d'ailleurs que le don de sang est très important.
Absolument. Je rappelle le numéro, c'est 82-14 plutôt.
82-14. D'accord. Merci beaucoup.
82-14.
Justement.
Oui,
merci
le don
beaucoup.
De sang, c'est important parce que, vous voyez, des patients, le premier médicament dont ils ont besoin, c'est les poches de sang. Est-ce que vous voyez? Un accidenté, quelqu'un qui est anémié, quelqu'un à qui on doit faire une opération. Il y a plusieurs patients qui sont dans cette condition. Il faut avoir des poches de sang à côté ou bien. Leur fait une transfusion avant de continuer leur traitement. Est-ce que vous voyez? Et vous voyez la scène qui se passe au niveau du CNTS. Quand vous y allez, on dit qu'il n'y a pas de sang. Les gens pensent que ce n'est pas vrai et qu'on ne les considère pas. Mais non. Mais très souvent, il faut se poser la question de savoir tous ceux-là qui cherchent les poches de sang, est-ce qu'ils sont des donneurs? Est-ce qu'ils ont des donneurs dans leur famille? Donc, c'est ça. C'est une union. C'est un travail, je te donne, tu me donnes. Donc, ce n'est pas seulement certains qui vont être des donneurs et d'autres ne vont pas donner. Est-ce que vous voyez? Tout le monde peut donner, tout le monde doit donner parce que nous sommes dans une situation de pénurie et il faut que chacun se lève pour le faire.
Il faut que chacun se lève pour le faire. Quand on se trouve alors dans le cas de manque alors de sang, c'est en cela ou c'est dans ce cas-là surtout qu'on reconnaît plus alors l'utilité de ce que vous êtes en train de dire.
Malheureusement, on n'a pas trouvé des poches de sang pour certains patients et la catastrophe est
arrivée. Tout à fait, arrivée. Alors, justement, Gazelle, vous parlez de notre sujet, vous parlez de cette campagne de consultation d'INAM avec 6250 personnes qui sont soignées.
Oui, la campagne de l'Institut national de l'assurance maladie du 2 au 12 septembre dans la région maritime. C'était Cara et le Grand Lomé qui avaient bénéficié de cette campagne. Alors, qu'est-ce qu'on fait au cours de cette campagne? C'est un peu un déplacement de l'hôpital vers les communautés. On va dans les villages pour consulter des gens. Vous savez, il y a des gens qui n'ont jamais fait une consultation médicale.
Ah bon?
Si. Les gens ne connaissent pas leur tension artérielle. Les gens ne connaissent pas leur glycémie. Quand vous leur parlez de ça, ils ne savent pas. Donc, c'est l'occasion pour amener des gens à aller bénéficier de ce genre de traitement gratuitement. Puis, c'est fait gratuitement aussi. Mais c'est aussi une stratégie de promotion de la santé pour cette institution qui est dans l'assurance maladie. Et c'est aussi une occasion pour sensibiliser la population sur le projet de l'assurance maladie universelle. Alors, vous savez, aujourd'hui, c'est important que ces stratégies se fassent, hein, des campagnes, parce que je le disais tantôt, pour plusieurs raisons, dont on n'a pas les moyens financiers, les gens ne vont pas se faire consulter. Hein, et entrer avec les pathologies.
Non, mais il y a aussi l'ignorance et aussi la négligence qui joue des fois. Hein.
Oui, je dis, pour plusieurs raisons. Non, les gens n'ont pas les moyens financiers pour... Parce que quand vous allez à l'hôpital, il faut payer le coût de consultation, il faut payer le coût des actes, il faut payer le coût des médicaments, et ce n'est pas à la portée de tout le monde. Vous voyez. Donc, ce genre de campagne amène quand même à soulager un certain nombre de personnes et puis à donner un cliché aux gens sur leur état de santé. Hein. Donc, on a connu des gens qui sont arrivés, qui ont une tension très élevée, des gens qui ont une glycémie très élevée. Donc, il faut les recommander rapidement vers les hôpitaux spécialisés pour leur prise en charge, ce que INAM a fait. Donc, voilà, on attend que INAM aille dans les deux autres régions. Je crois que c'est Plateau et Savane qui restent.
D'accord. Voilà. Oui, mais vous vous intéressez à un organe de notre organisme. Et c'est bien le cœur. Et vous écrivez à la une, même d'ailleurs, de votre journal Santé Éducation, règles d'or pour préserver le cœur.
D'après les études, le cœur est l'organe qu'on agresse le plus au niveau de notre organisme. Et c'est très dangereux. Hein, c'est absolument dangereux parce que si on agresse notre cœur, d'abord, il y a un problème de circulation du sang dans notre organisme. Et puis, il y a un problème de circulation de l'oxygène. Parce que le sang, il véhicule les nutriments et l'oxygène. Quand l'oxygène n'est pas ventilé dans l'organisme, il y a problème. Alors, on agresse le cœur par rapport à notre mauvaise alimentation, à nos mauvais choix d'aliments, et puis nos mauvaises pratiques, notre mauvaise hygiène de vie. Vous savez, il y en a qui ne dorment pas beaucoup, il y en a qui font l'excès d'un certain nombre de l'alcool, par exemple, et tout, et tout. Donc, c'est des pratiques qui heurtent le cœur. Et aujourd'hui, quand vous allez au niveau des hôpitaux, des gens viennent comme ça à l'hôpital pour une pathologie, on leur détecte un problème cardiaque. Ils sont venus pour une autre pathologie et on leur détecte un problème cardiaque. Donc, aujourd'hui, les problèmes cardiaques sont récurrents au niveau des formations sanitaires et cela crée des crises, cela crée des problèmes. Donc, nous devons apprendre à entretenir cet organe important, le cœur. Alors, pour entretenir le cœur, qu'est-ce qu'il faut faire? Dans cet article, revenons seulement sur des habitudes que nous devons faire tous les jours et que nous ne devons pas faire aussi, notamment sauter le petit déjeuner. On aime à dire cela, c'est vrai que ça... Mais quand vous sautez le petit déjeuner, plusieurs études confirment que vous faites du tort à votre cœur.
Quand on saute les petits déjeuners, on fait vraiment du tort à notre cœur.
Absolument. Quand vous n'êtes pas quelqu'un qui fait au moins 3 exercice physique, bien sportif, dans la semaine, au moins 3. Pendant 30 minutes, sachez que vous êtes en train de donner des coups à votre cœur et c'est très mauvais pour votre santé. Est-ce que vous voyez? Donc, il y en a jusqu'à une vingtaine de parties comme ça qu'il faut faire, qu'il ne faut pas faire pour entretenir le cœur. Le cœur, c'est un organe central de votre santé. Je ne sais pas si ça se remplace, même si ça se remplace, ça ne serait pas au niveau de tout un chacun. Donc, protégeons notre cœur, préservons le cœur, adoptons les bonnes habitudes alimentaires, d'hygiène de vie, c'est très important. Et puis, il y a aussi une chose, être positif, hein, bien gérer le stress, c'est
être
aussi...
Être positif dans la tête.
Être positif dans la tête, ça agit sur le cœur. Hein, et bien gérer le stress aussi, surtout au niveau des professionnels. C'est très important aussi pour la santé du cœur.
D'accord, c'est très important pour la santé du cœur. Alors, nous allons aborder ce dernier sujet. C'est ce titre hein, qui m'intéresse bien. Vous écrivez « Haïti contre crise de drépanos et infections ».
Oui, vous savez, la médecine alternative a ses avantages. Haïti, bien le fragara, cette herbe que nous connaissons vraiment chez nous ici, qui est... d'après plusieurs études, a beaucoup de vertus sur la santé et aide beaucoup ceux qui sont des drépanocytaires à avoir un sain bien-être. Il y a une recette dans cet article que nous proposons avec l'aide des spécialistes. Et puis, c'est aussi une herbe qui aide beaucoup à lutter contre les infections. Donc, allons vers les plantes. Les plantes sont faites par Dieu pour être consommées, pour être utilisées pour notre santé. Ce n'est pas seulement pour orner les rues, bien nos maisons. C'est pour aussi la santé, pour l'alimentation. Donc, n'ayons pas peur d'aller vers les plantes pour notre santé. C'est ça même la vraie santé.
Et avec l'urbanisation aujourd'hui, hein, nos villes qui s'élargissent, on ne retrouve même plus ces plantes en ville.
Oui, c'est ce qui est dommage. C'est ce qui est dommage. C'est ce pourquoi, quand on a ce genre de plantes à côté de nous, il faut les entretenir. Hein, ne pas couper ce genre d'herbes qui sont des herbes qu'on appelle des herbes médicinales pour notre santé.
Merci beaucoup, Gadiel. Tu nous as dit d'être passé alors dans cette émission.
C'est un plaisir.
Et pour avoir votre journal en PDF et en papier, quelles sont les conditions?
Nous recommandons le journal numérique sur à télécharger sur notre site internet www.santé-education.tg à 500 francs. Donc pour le jeune 96 14 97 97.
D'accord, Gadiel Tsonadi, merci d'être passé. Ça fait toujours plaisir d'être avec vous pour cette chronique santé, conformément même d'ailleurs à des titres évoqués par votre journal Santé Éducation chaque mercredi. Merci d'être passé. Alors, nous revenons en studio et nous recevons aujourd'hui un invité politique, c'est Monsieur Jean Kissi. Monsieur Jean Kissi, bonjour.
Bonjour, bonjour, mon cher, bonjour, chers amis journalistes. Mon bonjour à tous ceux de la corporation. Je ne parle pas seulement de ceux qui ont la plume, mais ceux qui exercent dans le métier depuis vos directions, vos chefs de programme, etc. Bonjour. Et chaque fois que je m'approche d'un micro, j'ai une pensée profonde pour la presse, pour les conditions dans lesquelles la presse vit au Togo, malheureusement, parce que nous qui faisons un peu du monde, on voit comment ça évolue partout. Je connais un peu la situation des journalistes en Côte d'Ivoire. Je connais en Tanzanie, en Afrique du Sud, n'en parlons pas. Je ne veux pas parler de l'Europe pour qu'on dise que je compare des choses incomparables. J'ai commencé par voir la situation des journalistes au Ghana et puis au Bénin pour dire qu'il faut se plaindre pour les journalistes togolais. Franchement, c'est dommage qu'on les laisse à ce niveau, alors que l'information, c'est la vie, l'information, c'est le développement.
D'accord.
C'est malheureux. Ça changera.
Je sens votre voix douce ce matin. Est-ce que c'est la fatigue comme d'autres, ou bien vous avez décidé alors de le faire ainsi?
Non, peut-être que je suis dans un état que les gens disent togolaisement. Déception, malheureux, on est peiné de la situation dans laquelle le pays est, peut-être ça. C'est, les gens ont trouvé un adjectif ou bien un adverbe de manière, on dit togolaisement. Donc, peut-être c'est parce que je vais togolaisement.
C'est parce que vous allez togolaisement. Ouais. Déception par rapport à quoi? À la lutte, puisque déjà vous avez commencé cette lutte depuis un temps. Mais est-ce que toujours est-il que vous n'avez pas alors de résultats probants? C'est pour cela même d'ailleurs que vous êtes désespéré.
Non, mais déception par rapport à l'état du pays plutôt, hein. Déception par rapport à l'état du pays. Vous savez, la situation et les positions que nous avons occupées dans ce pays, un certain nombre de personnes, moi depuis 19 ans, je parle des gens des jeunes qui ont initié la lutte et qui ont été portés à un niveau populaire de la lutte. Je parle de moi, je parle de D'Église, je parle de Yovo Déby, je parle de ces jeunes-là qui ont fait la lutte. Dans notre parcours, on voulait occuper les postes, on voulait devenir ministre. Ce n'est pas qu'on ne nous a jamais démarché. Donc, ce n'est pas par rapport à nous, ce n'est pas par rapport à la lutte, la déception par rapport au pays. Parce que si nous luttons, parce que nous voulons que le pays aille dans un mieux-être. Voilà. À partir du moment où le pays n'est pas dans un mieux-être, vous ne pouvez pas être content. C'est-à-dire qu'il arrive qu'il y ait des militants, des combattants de la démocratie qui arrivent au moins à donner quelques satisfaits à ce qu'on appelle les leaders éclairés. Les leaders éclairés, c'est des dictateurs qui n'ont pas envie de laisser le pouvoir, mais qui construisent leur pays. Vous voyez leurs œuvres, vous n'imaginez pas. Souvent, on a du respect pour ces gens-là. Quand nous, on était jeunes, les gens voyant la locution de Mobutu, etc., se disaient, mais ils auraient été contents que celui-là soit un leader éclairé, ils l'auraient gardé au pouvoir parce qu'il a de la prestance, etc. On a vu l'état dans lequel il a laissé le Congo. Donc, ma déception, c'est par rapport à l'état calamiteux dans lequel se trouve notre pays.
Mais, monsieur Jean-Kissi, est-ce qu'il est difficile d'être politicien au Togo ou surtout d'être dans l'opposition?
Oui. Oui, parce que vous ressentez la peine. Si vous êtes un vrai opposant, vous ressentez la peine. Politicien, je ne sais pas le dire, parce que, vous savez, c'est un mot qui, je ne sais pas,
galvaudé
me fait mal.
Aujourd'hui.
Non, ce n'est pas galvaudé. Pour moi, le mot même est péjoratif, pour moi. La nature du mot, pour moi, est péjorative. Parce que il n'y a pas de politicien. Dites-moi, quel diplôme vous faites et vous devenez politicien. Dis-moi, quelle étude vous faites et vous obtenez quel diplôme qui est politicien. Il n'y a pas de politicien. La politique, c'est les affaires de la cité. Ça veut dire que même quand tu es un pasteur, que tu vas dans ton quartier, dans ta mairie, et que tu dis, les choses ne doivent pas être comme ça. Les gens doivent ramasser leurs ordures. Il ne faut pas laisser vos maisons comme ça. Tu fais déjà de la politique. Donc, ce truc biscornu de dire le politicien ou on est en politique, on n'est jamais en politique. Tout le monde est en politique. À partir du moment où ici, vous parlez de l'affaire de la cité, de son amélioration, ça veut dire que vous êtes en politique. C'est pour ça que, depuis le début de la lutte, moi je n'aime pas qu'on m'appelle politicien. Je suis d'abord trop petit et trop humble pour me laisser appeler politicien.
Et vous préférez peut-être homme politique?
Non, je me fais appeler combattant de la démocratie. Parce que vous ne savez pas si la lutte a abouti, si je vais rester dans les postes électifs. Hein. Peut-être que si la liste l'aboutit, je deviendrai un prédicateur laïque. Comme monsieur le président de l'Assemblée nationale aujourd'hui a déjà dit qu'il est prédicateur. Donc un jour, la lutte aboutit, les gens peuvent être étonnés que je ne veux pas de mandat électif, je ne veux pas de mandat exécutif, et que je peux demander de devenir un promoteur agricole quelque part ou un prédicateur laïque.
Donc ce qui nous tient à cœur, c'est le changement.
Tout à fait.
D'accord. Alors, nous allons nous intéresser à la politique de notre pays, l'actualité surtout. Alors, je rappelle que vous faites partie du front Touche pas à ma Constitution. Alors, ce front avait organisé une activité, une manifestation de prière, de solidarité tout récemment. C'était le vendredi dernier. Mais cette manifestation a été interdite par le ministre Odabalo Awate. Et finalement, comment vous avez accueilli cette interdiction?
On a été malheureux. On a été vraiment malheureux. D'abord, il faut dire ce qui s'est passé, c'est de l'arbitraire.
Comment ça?
On va y arriver. Mais avant d'arriver à ce niveau, disons qu'on a été malheureux. Parce que je connais des pays où les gouvernants eux-mêmes organisent des choses à l'endroit des prisonniers. Parce qu'on considère qu'ils sont dans une situation, il faut avoir un cœur, il faut avoir un esprit chrétien, il faut avoir un esprit musulman. En tout cas, il faut avoir un esprit pour eux. J'en connais. Où c'est l'État même qui organise des choses de bienfaisance, des choses qui calment le cœur à l'endroit des prisonniers. Que vous ne le fassiez pas. Et que d'autres décident de le faire. Pour des gens qui sont en prison, tout simplement pour avoir réclamé la liberté et le changement. C'est ça. Pour avoir réclamé la liberté et le changement, que d'autres veuillent le faire et que vous refusez, c'est quand même malheureux. Quand même malheureux pour un pays, un État, pour des gens qui gouvernent. Ça, c'est un. Deux, ce que nous voulions même organiser. Il y a longtemps, ces prisonniers étaient oubliés, semblaient oubliés un peu. Et nous sommes revenus à la rescousse et nous avons considéré que s'il y avait une période où il y avait une fête de la jeunesse. Et on avait considéré que la plupart des prisonniers étaient des jeunes. Parce que c'était à ce moment-là qu'on est des activistes. Et dans cette période, était une période de vacances qui coïncidait avec la rentrée des classes. On a considéré qu'il y a des gens qui vont partout, dans des orphelinats, etc., pour donner des cahiers aux gens, etc. Mais pourquoi personne ne pense à ces enfants des prisonniers? Parce que même s'ils avaient fait quelque chose, les enfants n'ont rien fait. Ce serait peut-être les parents qui aient fait. Encore que ce qu'ils ont fait, c'est pour le bien du peuple. En fait, c'est pour nous sauver, nous tous, qu'eux, ils se retrouvent là-bas. Pourquoi ne pas avoir une pensée pour eux, pour leur famille et pour leurs enfants? Donc, nous avons décidé de ne pas faire de manifestations tonitruantes. C'est là où ça blesse, hein. Quand vous décidez d'être sage et que les gens veulent vous prouver qu'ils sont des tyrans, c'est là où ça pose des problèmes. Nous avons décidé d'être sage. Nous avons décidé d'organiser des prières. Nous avons décidé d'organiser des réunions. Nous avons décidé d'aller voir le ministre des Droits de l'Homme pour lui remettre un courrier. faire un plaidoyer pour ces questions des prisonniers, etc. Nous faisions ça déjà avec le ministre Pius Agbetome. Et nous avons décidé d'approcher les familles pour leur dire de garder espoir que ça va s'améliorer, que nous menons toutes les démarches, même ce qu'il faut à l'endroit de l'État pour que leurs enfants soient libérés. Et c'est dans cet ordre d'idées que nous avons organisé la distribution. On organisait tout à Sokodé, parce que la plupart des prisonniers politiques dans ce cadre que nous avons recensé étaient de la région Tem. Donc on y organisait tout là-bas. Et pendant qu'on organisait, d'autres nous ont touchés pour nous dire « Mais les prisonniers sont à Lomé, il y a certains, leurs enfants sont à Lomé. Pourquoi nous voulons aller tout faire à Sokodé ?» Alors nous avions décidé que, ok, ceux qui sont à Lomé, on leur donne à Lomé. Ceux qui sont à Sokodé, on leur donne à Sokodé. Et en même temps, la plupart ont un parent à Sokodé, et à Bafido, à Tchamba, on les fait venir à Sokodé, et ensemble, on leur parle, on fait une prière ensemble, pour dire à Dieu de saisir le cœur de tout le monde pour que leurs enfants reviennent à la maison. Mais qu'est-ce qui peut avoir de plus noble et qu'on organise, on interdise une telle manifestation? Voilà un peu là où le bas blesse.
Oui, mais on se pose la question de savoir quel type de prière vous voulez faire, parce que dans la courrier réponse à votre courrier, le ministre stipulait que votre manifestation que vous projetez n'est pas de nature à préserver la tranquillité publique.
Oui, c'est ce que moi-même je me demande. Je ne sais pas quel type de prière, catholique ou musulmane peut être une prière qui dérange la tranquillité publique. C'est ça le mal. C'est pour ça que quand un collègue disait que il ne faut pas militariser l'administration, je suis d'accord avec lui. Je suis totalement d'accord avec lui parce que la formation militaire est une formation qui fait que la force ou le pouvoir de l'arme et du corps prime sur le pouvoir du droit. Voilà. Donc, moi, ça me fait un peu mal. Ça ne veut pas dire que les militaires ne sont pas bien. Non. Dans mon histoire politique et ce que j'ai suivi, il y a des militaires brillants au Togo. Nous, on était déjà à la conférence nationale. On était sortis de la conférence nationale. Et tout le monde criait « Doua, doua, doua ». Je ne sais pas si vous avez entendu son histoire. Et c'est Maître Agbouibo qui nous appelle, qui nous dit « Hé, le doua là dont vous parlez, mais il était brillant à l'école. Il était très brillant. » Je dis « Oh, maître, c'est un papa en même temps, mais toi, tu le connais, dis comment. » Ils ont fait ensemble Sokodé. Et c'est ensemble qu'ils faisaient... les élèves qui n'étaient pas bien. Donc, Doua était vraiment brillant. Et pourtant, donc, vous prenez quelqu'un comme François Boko. Quand vous écoutez leurs résultats à l'école, ça a été des gens brillants. Mais maintenant, l'administration doit être civile. Parce que, vous voyez dans notre constitution... Vous ne vous êtes jamais posé la question pourquoi on a dit si un militaire veut devenir président de la République, il doit enlever son habit et le mettre au verset avant de devenir président. Vous savez qu'il y a cette disposition-là. Cette disposition voulait dire tout simplement que dans une République, l'administration est civile. Et les autres corps sont des corps qui répondent à l'administration. Qu'on ait militarisé toutes nos préfectures, c'est des colonels partout, etc. Et qu'on fait des interdictions, on lit les interdictions avec les textes et les interdictions violent même les textes. Cette interdiction-là, précisément, j'ai jamais vu aucune interdiction violant les textes. Non seulement, pas les textes que nous voulions, mais les textes qu'eux-mêmes, ils ont changés à leur disposition. J'ai le texte devant moi. Quand nous aurons une minute, je vous démontrerai, je vous lirai les parties qui disent qu'il est en train de violer les textes. Voilà.
D'accord. Mais avec ces... Avant de donner même d'ailleurs la parole à Sylvestre, qui a une question pour vous. Avec ces interdictions de manifestation publique, est-ce que finalement on pourra dire que ou bien on a l'impression que l'espace civique est aujourd'hui restreint?
Tout à fait. C'est bloqué. C'est même pas restreint. C'est bloqué. Non seulement l'espace civique, mais l'espace médiatique. Moi, c'est-à-dire que moi, j'ai pas peur de dire les choses. Est-ce que vous ne constatez pas que parmi vos collègues qui font même les grandes émissions, lorsque les gens veulent aborder les grands sujets de face, ils essayent de débiner? Moi, c'est ce que je vois. Et quelquefois, moi, avant de rentrer dans le studio, les gens me disent « Wobleoulou, parce que eux-mêmes aussi, ils ont peur de l'épée de Damoclès sur leur tête. Et ça, jusqu'à quand? Nous allons tous nous taire et regarder ça jusqu'à quand? C'est la situation que subit Joachim Agbetim aujourd'hui. Joachim Agbetim, il a fait quoi? Mais chaque personne qui a au-delà de 18 ans, qui se met dans une activité, une ONG, une activité publique, porte la responsabilité de ce qu'il dit. Quand vous lui tendez son micro, ce qu'il dit ne dépend pas de vous. Dépend de ce qu'il dit dans le micro. Alors, Quelle est la faute de Joachim Agbetim dans tout ça? Et surtout que pendant l'émission, j'ai vu, il a essayé pendant toute l'émission de calmer, comment l'appelle-t-on,
de recadrer.
Voilà, de calmer et de recadrer. Si c'était un régime démocratique, j'aurais été à la place de ceux qui ont fait ça. Je l'aurais pris, je leur aurais dit, mais tu t'es débrouillé. Je l'aurais félicité, mais je lui aurais dit, mais il y a quand même quelques risques lorsque la situation est comme ça, comme ça. Mais je ne vois pas pourquoi il doit subir une sanction.
D'accord. Sylvestre ?
Oui, j'ai écouté M. Jean Kissi religieusement. Tout à l'heure, en faisant référence donc à la loi, il disait justement qu'il y a violation. Je crois qu'avant d'arriver à une interdiction, c'est vrai, le ministre doit prendre un arrêté. Mais est-ce que l'opposition ne prête pas le front? Parce que le gouvernement toujours interdit les manifestations par un communiqué. Et ça devient presque la norme. Or, la loi impose donc un arrêté. Mais le gouvernement l'a toujours fait. Pourquoi est-ce que c'est aujourd'hui où vous estimez qu'il y a violation? Or, il y avait cette violation-là depuis. L'autre chose, c'est peut-être la question qui est subsidiaire à la principale. Avant donc d'arriver à l'interdiction, normalement, la loi demande à ce que et les organisateurs et les ministres puissent échanger sur un certain nombre donc sur les contours de la manifestation. Et au cas où l'administration, le gouvernement n'est pas peut-être convaincu de la démarche ou des arguments avancés par les organisateurs, on interdit. Est-ce qu'entre-temps, et le Front touche pas à ma condition et l'administration territoriale se sont retrouvés pour échanger sur ce que vous voulez réellement faire à ce côté?
Pas du tout. Pas du tout. Sylvestre a totalement raison. Au moment de la C14, pour chaque manifestation, qu'il y ait des remarques sur la manifestation, le ministre Boukwessi et le ministre Yark avaient l'habitude de nous appeler. Il y avait toujours une délégation de la C14. Et avant l'intervention des facilitateurs, et pendant l'intervention des facilitateurs, et après le départ des facilitateurs, ils nous appelaient et on discutait. Et Sylvestre a raison. C'est-à-dire que, en réalité, aujourd'hui, c'est le gouvernement qui se comporte comme un hors-la-loi. Et dans l'arbitraire contre nous. La loi dit, la loi dit, l'autorité administrative compétente qui reçoit la déclaration fait connaître ses observations et ses recommandations motivées, notamment en ce qui concerne le lieu, l'itinéraire, la sécurité et les secours d'urgence. Et après, maintenant, la loi propose dans l'article qui suit les recommandations et leur respect, et la loi demande au ministre de veiller à ce que les recommandations soient respectées, même s'il le faut qu'il aille sur les lieux avec les organisateurs pour dire « c'est à cause de ceci que j'ai dit que vous ne pouvez pas faire ici, qu'il ne faut pas positionner tel micro ici, etc. C'est à cause de ceci. » Et c'est si vous lui dites que vous ne voulez pas respecter, il interdit. Donc, dans la loi, quand vous suivez correctement, vous avez trois étapes qu'il doit suivre. Première étape, il fait ses observations et ses recommandations. Deuxième étape, il vérifie, c'est là où il discute avec vous ou va sur le terrain avec vous. Et troisième étape, si vous ne respectez pas, il interdit par décision motivée. Là aussi, la loi a laissé une lacune. La loi doit préciser ce qu'elle appelle une décision motivée. Mais ce n'est pas un communiqué en tout cas. Voilà. Mais ça veut dire que Sylvestre a raison. Le problème, c'est que nous voulons attaquer ce que le ministre a fait devant la chambre administrative de la Cour suprême. Mais on ne peut pas, parce que ce qu'il a envoyé comme papier, si on l'amène devant la Cour suprême va dire, mais ça n'a aucune valeur devant nous. Si on peut attaquer un décret, on peut attaquer une loi. Si ce n'est pas une loi, c'est un texte qu'on a trouvé quelque part, vous ne pouvez pas aller chez le juge pour lui dire, j'attaque ça. Ça veut dire que mais vous venez faire de la pagaille dans son boulot.
D'accord.
Voilà.
Essayez.
Non, en fait, Sylvestre a déjà pris en compte ma question, mais je voudrais rebondir en demandant, en l'absence de l'appel du ministre, par exemple, pour discuter, est-ce que le Front a exercé une démarche concrète, c'est-à-dire chercher à rencontrer le ministre après cette interdiction pour comprendre réellement les motivations? Est-ce que le ministre n'entend pas ce refus-là, les raisons évoquées?
Non, en fait, le problème qui se pose, c'est quoi? C'est une question de auteur et récepteur, ou d'émetteur et récepteur. La loi nous dit, nous, c'est une information. Si c'était une autorisation, on est dans un régime d'information. Vous écrivez, vous dites que vous faites. Si rien ne vient, ça veut dire que vous pouvez faire. Maintenant, si quelque chose doit venir, la loi dit comment est-ce que ça doit venir. Donc, on a envoyé le truc depuis. S'il voulait que ce processus soit fait, il aurait pu. On dit au plus dans 72 heures. Mais c'est, ils attendent jusqu'à compter les minutes des dernières 72 heures, ils nous balancent une interdiction. Ça veut dire que quand ils balancent l'interdiction, ils échouent toute la procédure, ça veut dire que vous n'avez plus d'autres possibilités. Vous ne pouvez pas vous pointer là-bas pour dire, voilà, vous voulez faire, etc. Ça veut dire que c'est lui, sans observation, vous ne pouvez pas vous pointer. L'interdiction est la dernière phase. La dernière phase est venue. Si les recommandations venaient, nous, on pouvait prendre leurs recommandations et aller. Si vous vous souvenez, avant les élections, au lendemain de la modification de la Constitution, nous avions prévu ensemble le Front Touche pas ma Constitution et le groupe Front Citoyen Togo Debout, on avait prévu une géante marche. Et au cours de cette géante marche, le ministre nous a, deux ministres nous ont appelés. C'est la fois où ils ont dit qu'on avait prévu attaquer les domiciles des députés, vous vous souvenez?
Oui, oui.
Ils nous ont appelés. Et on a discuté. Quand on a discuté, ils ont dit qu'on n'a pas raison. Nous aussi, on a dit qu'ils n'ont pas raison. Les gens qui sont allés là-bas leur ont démontré par A plus B qu'ils n'ont pas raison. C'est pour ça que nous aussi, on n'a pas annulé la manifestation. Mais après, ça s'est calmé, ça n'a pas causé du grabuge. Mais quand on ne nous donne pas cette possibilité-là, quand on ne t'envoie rien du tout, tu n'as même pas un papier avec lequel tu peux aller discuter.
D'accord. Abbas ?
Oui, c'est une petite question. Je pense que dans l'intention du ministre, il a parlé des organisateurs. C'est-à-dire que les signataires ne sont pas les organisateurs. Et que certaines associations qui sont impliquées dans cette organisation n'ont pas un fondement juridique, ne sont pas légalement constituées. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Parce qu'il y a des progrès que les signataires de la lettre ne sont pas des organisateurs et que certaines associations ne sont pas légalement constituées.
Non, pas de base légale.
Ça aussi, c'est une manœuvre. Et moi, je continue de le dire comme un religieux, que gouverner, c'est un métier noble. C'est-à-dire que après le métier de religieux, celui qui vient en matière de noblesse est gouverné. Parce que vous êtes appelé à régler les affaires de la cité, à aider les populations à être bien, à leur procurer de la prospérité. Vous ne pouvez pas être dans la manœuvre permanente tout le temps. Alors, ce qu'il dit sur les organisateurs, ces gens-là n'ont jamais été des organisateurs. Les organisateurs, je crois, c'est trois organisations. Je crois le Parti des Togolais, la CDPA et la Ligue Togolaise des Droits de l'Homme. Je crois bien. Donc, ceux que le ministre cite n'ont jamais été des organisateurs. Où est-ce que le ministre puise, ou bien le préfet sur le lieu, les deux, puise la manœuvre pour nous interdire? Vous savez, c'est juste le papier en tête. C'est-à-dire que le papier où vous avez un papier de votre société, ou à gauche, ou en bas, ou à droite, vous mettez les organisations qui sont dedans. Et ça devient un papier en tête que vous utilisez. Vous ne pouvez pas imaginer, c'est là qu'il est allé puiser ça. Mais, comble de peau, les organisateurs qu'il a puisés, Binje Gebinje, Ensemble le Togo, Front Togo Souverain, vous savez ce qu'ils sont? Ils sont sur cette liste-là, pas parce qu'ils sont inscrits sur le Front Touche pas ma Constitution, parce qu'ils sont de la DMP. C'est-à-dire qu'on met la DMP entre parenthèses, on met les organisations. Et pendant que, quand la DMP fait des manifestations, il n'y a pas de problème. La DMP a été un organe qui a été accepté d'aller aux élections, qui a été appelé dans toutes les institutions. Les mêmes, on les reproduit ensemble avec d'autres organisations sur le papier de Front Touche pas ma Constitution et on dit que non, c'est à cause de qu'on interdit la manifestation. Vous voyez la manœuvre.
Il y a un problème.
Elle est grossière, comme je ne sais pas. Je ne sais pas.
D'accord. Oui, monsieur Jacques, c'est intéressant de mettre votre Front Touche pas ma Constitution. Alors, aujourd'hui, c'est vrai que tout récemment, il y a trois partis politiques qui ont été exclus de vos rangs. Quand on voit ces exclusions alors de partis politiques alors dans vos rangs, est-ce que ça n'affaiblit pas aujourd'hui le Front?
Vous me donnez l'occasion de rectifier quelque chose. Moi, j'étais à l'extérieur. Lorsque ces événements se sont passés, lorsque ces discussions ont eu lieu. Mais j'étais revenu au pays au moment où la discussion était tombée. Et on m'a fait le point de la discussion. Alors, dans le papier qui a été fait, il n'a pas été écrit exclusion. En fait, qu'est-ce qui a été écrit ? C'est que, depuis que nous avons commencé, un certain nombre d'organisations ne viennent pas aux réunions. Il y a certains qui sont venus une fois. Il y a certains qui sont venus deux fois. Mais il fut arrivé un moment, les nôtres disent, pendant qu'ils faisaient les réunions, au moment où je n'étais pas là, disent avoir constaté qu'ils ont des attitudes, ils ont des positions qui sont contraires à l'orientation et qui sont même opposées, qui sont autodestructifs aux motifs que nous poursuivons. Et qu'à partir de ce moment-là, nous constatons qu'ils ne sont pas avec nous. Voilà un peu. Donc, quand les gens se sont plaints, quand ceux qui ont reçu la lettre, certains, on est des amis, certains, c'est des oncles, ils m'ont appelé et on a discuté. Et c'est à eux que j'ai demandé, renvoyez-moi la lettre qu'on vous a envoyée. Et j'ai lu la lettre, j'ai dit, mais où est-ce qu'on a dit que vous êtes exclus? Mais voilà ce qu'on a dit. Voilà l'interprétation que la presse en a faite. C'est que la presse aussi a un certain nombre d'éléments additifs qui leur permet de voir que ah, vous n'êtes pas dans la ligne et que par conséquent, on dit que vous ne pouvez plus être avec eux. Donc, les mots ont leur sens, hein. Les noms ont leur grande nuance. Donc, c'est ça. Quand vous êtes ensemble et vous constatez que... moi, j'aime bien. Il y a l'un des leaders avec qui je suis très bien, c'est le professeur Gougué. Mais quand vous constatez que quand ils sont allés à l'Assemblée nationale, à la session de droit, bon, ils ont dit non à la Constitution. Que cette Constitution ne va pas gouverner notre règlement intérieur. Et qu'on conçoit le règlement intérieur sous cette Constitution-là. Que ce règlement intérieur vient au vote. Et que ces trois représentants de l'opposition qui sont à l'Assemblée. On constate que un a voté non, un a voté abstention et un a voté pour. Mais qui et pourquoi? Comment est-ce qu'ils peuvent se comporter comme ça? Qui au sein de l'opposition a voté pour le règlement intérieur pendant qu'eux-mêmes sont sortis nous dire que nous rejetons ce règlement intérieur et que nous allons sur tous les médias pour faire la sensibilisation avec les populations qu'ils ont rejeté ce règlement intérieur? Alors, les gens peuvent se demander, Madame Adjamagbo peut se plaindre. Les gens vont croire que c'est elle qui a voté oui. D'autres peuvent dire, c'est elle qui a voté oui. Mais est-ce que ça, c'est acceptable? Si ce n'est pas acceptable, on rencontre ses amis de l'opposition, on le leur explique. On vous a demandé d'être dans une délégation pour aller apprendre de l'exercice du régime parlementaire. Voilà. Moi, ça aurait même suffi que j'aurais demandé, mais est-ce que le régime, on va apprendre et puis on va le concevoir? S'ils disent non, je dis, mais vous l'avez déjà conçu, je vais apprendre quoi? La chose existe déjà. Donc, c'est médecin après la mort que je vais aller apprendre. Mais voilà un peu. Il y a d'autres qui sont allés dire qu'il faut faire avec cette constitution-là. Comment pouvons-nous accepter? Nous qui combattons, des démocrates qui combattons une constitution qui a un coup de force et constitutionnel, nous allons dire et nous demandons le retour à l'ordre constitutionnel, on va accepter désormais qu'on l'accepte. Surtout quand ces gens-là vont sur les médias pour démontrer que par le passé, nous avons rejeté des choses et que finalement c'est rentré en œuvre et c'est par conséquent qu'il ne faut plus contester. Je dis non. Mais vous savez, 2017, vous savez ce qu'a été le 9 août 2017, le 19 août 2017 a été la contestation de tripatouillage de 2002. Alors, si on change une constitution en 2002, et 2017, ça fait combien d'années? 15 ans, non?
Oui, 15 ans.
Et qu'après 15 ans, on peut le contester. Et c'est ça qui a fait qu'en 2019, UNIR a accepté de le modifier. Mais pourquoi une constitution qu'on a faite il y a 3, 4 mois, on ne peut pas le contester? On va nous dire, pourquoi on ne peut pas citer cet exemple-là? Donc, voilà comment moi je veux que chacun aide la lutte à avancer.
D'accord. Sylvestre?
Non, en fait, moi, je voulais également, à mon niveau, rectifier quelque chose. En fait, la presse n'a pas ajouté quelque chose comme l'estimait tout à l'heure Jean-Kissi, parce que lorsque des gens sont contre les idéaux donc d'une association et on leur envoie un courrier, que du fait donc de vos positions, vous ne pourriez plus continuer avec nous. Mais comment est-ce qu'on peut interpréter cela? On les a exclus. Donc la presse n'a pas inventé, a dit et santé du peuple et puis les Togo ont été exclus. Et là je dis, demain même la presse peut encore écrire, les confrères écrivaient, ils sont exclus. Et
j'ai posé la question même d'ailleurs à un des leaders de Touche pas à moi constitution qui m'a rassuré que c'est justement une exclusion.
C'est une exclusion.
Je repose autrement la question. Oui, mais voilà, comprenne, en fait. quand M. Jean-Kissi nous dit que non, il n'y a pas le terme exclusion ou le mot exclusion qui soit explicitement sorti du communiqué, est-ce qu'on peut s'attendre à ce que demain, on retrouve UDS Togo et Santé du Peuple à l'une de vos manifestations ou à vos activités?
Non, nous on a dit non, c'est-à-dire que voilà, ils peuvent plus participer à nos activités.
Donc, c'est une exclusion. Vous êtes d'accord que c'est une exclusion?
Oui, mais c'est la déduction que vous.
Non, c'est pas une déduction, mais ce sont les faits.
Je sais pas. Donc, oui, c'est pas une définition et ce n'est pas une invention même du
tout. Ok, d'accord.
Nous avons fait un constat. Nous avons fait un constat et on a compris qu'il y a.
Ce que nous avons écrit là,
c'est l'exclusion.
Exclusion.
Et puis, de toi, on a vu que. Il y a un des exclus qui a répondu, qui vous a répondu.
UDS
Togo, qui a dit que ça devient de la comédie parce qu'ils ne sont jamais formellement, ils n'ont jamais formellement adhéré. Touche pas à ma constitution et vous l'excluez. Bon, ça c'est moi la question aussi que je veux poser. Quelle arme dispose, touche pas à ma constitution, pour qu'on revienne, pour que le pouvoir. Les autorités puissent revenir
à la question de 92.
Puisqu'on est déjà rentré.
Je viens de vous le dire tout à l'heure. De quelles armes les populations ont-ils disposé pour qu'en 2017, il y ait les manifestations et que le pouvoir soit obligé de revenir, remettre les dispositions que nous voulons en 2019? Moi, je viens de vous le poser. L'arme que le peuple a, voilà, c'est de protester, c'est de manifester, c'est. Quelle arme ils ont eu ailleurs? Quelle arme le FNDC a eu en Guinée? Mais ça veut dire que, vous savez, tout est concours de circonstances. Faites ce que vous... Vous savez, moi, mon papa m'a appris quelque chose. Et il le dit d'une façon enlevée. Fais ce que tu peux, advienne que pourra. Donc, pendant tout le temps, je fais ce qui est dans mon droit de faire. Quand on viole votre constitution, quand on viole votre peuple, il faut protester, il faut faire des manifestations. Nous reviendrons, nous irons à des manifestations, mais ça c'est sûr. La preuve, des gens organisent déjà des meetings. Et ce n'est pas un seul qu'ils en ont organisé. Seulement, vous savez, moi, il y a des éléments que je relève. C'est que, avant 2017, les manifestations étaient presque mortes au Togo. Dans cette radio-là, avec SAS, je venais avec des gens qui disaient, c'est fini, ces gens sont au pouvoir. Qu'il n'y aura plus rien. Même l'ANC, qui était le parti le plus populaire en ce moment-là, quand il appelait des manifestations, les gens ne venaient pas.
Plus.
Et puis, patatras, 2017 est arrivé. Vous savez, le peuple togolais est un peuple spontané. C'est ce que les gens ne connaissent pas. Les gens n'arrivent pas à voir. Le peuple togolais est un peuple spontané. Hein. Au moment où vous ne vous attendiez pas, c'est en ce moment qu'il réagit. 90, avec nous comme pilote derrière les Agbo-Ibo, tout ça a été la même chose. 2005 a été la même chose. 2017 a été la même chose et c'est cyclique.
Alors, moi, c'est vrai qu'avec 2017 dont vous parlez, il y avait eu aussi l'effet Tipeee. Et je ne sais pas si peut-être vous attendez quand même à un autre effet ainsi.
Mais il y a toujours un effet. Il y a toujours un effet. En 90, il y a eu l'effet Agbo-Ibo. En 2017, il y a eu l'effet Tipeee. Mais ça ne veut pas dire que les gens sont finis au Togo. Demain, c'est peut-être l'effet Sylvestre. On ne sait jamais. Il peut devenir politicien. D'autant plus qu'il y a des journalistes qui sont devenus politiciens. Et ça peut être plus proche que vous ne l'imaginez. Mais c'est pour ça que, en réalité, ce que moi je voudrais, c'est que nous-mêmes, en tant que politiques, on règle les choses avant que les choses ne viennent. Jusque le temps où on était avec les Agbo-Ibo, les maîtres d'église, etc., là, notre objectif, quand nous projetons des manifestations, n'était pas nécessairement de le faire. Hein. Nous, on était beaucoup plus dans l'esprit de la guerre froide. C'est-à-dire que, quand vous avez une force, vous le sortez pour que les choses puissent se régler. Donc, quand nous projetons des manifestations, c'était pour que le pouvoir entende et qu'on arrive à trouver ce que le peuple voulait et que ça se calme. Voilà, dans le syndicat, dans les protestations, voilà ce que nous voulions.
D'accord. Essaye.
Oui, je voudrais savoir, est-ce qu'aujourd'hui, clairement, on doit dire que l'opposition togolaise dans son ensemble est dans une unicité d'action ou, enfin, souhaite que toute l'opposition regarde dans la même direction et ne pas permettre à certains partis d'opposition de mener autrement les actions. Je reviens toujours à l'exclusion de ces trois parties-là et les raisons que vous avez évoquées. Est-ce que les parties ne peuvent pas regarder dans de différentes directions, mais obtenir un résultat que vous vous êtes fixé comme objectif, où on impose à toute l'opposition de regarder dans la même direction? Sans ça, on vous considère comme vous êtes de mèche avec le pouvoir.
Monsieur Kissi.
Merci. Quand vous jouez au football, je ne sais pas si madame a jamais regardé le football.
Je suis très foot, allez-y.
Ok, quand vous jouez au football et que vous avez des joueurs, si ça n'est que 2 sur 11, qui jouent sur votre poteau, soyez clair que vous allez perdre le match même quand vous êtes le plus grand joueur. Voilà ce que nous vivons. Et ça, on ne peut pas l'accepter. Il n'y a aucune règle du jeu qui considère à ce que, lorsque vous jouez ensemble, certains qui disent qu'ils sont avec vous, qui ont fait équipe avec vous, jouent dans votre propre poteau. On ne l'acceptera pas.
D'accord. Sylvestre. Ouais.
Non, moi, je crois que tout à l'heure, M. Kissi disait qu'il voudrait bien une administration civile, parce que lorsque on voit un peu l'existant aujourd'hui, avec le colonel Odabano qui est là aujourd'hui, c'est comme si... Est-ce que vous estimez que votre collaboration soit un peu difficile avec le colonel Odabano?
Non, il ne s'agit pas du colonel Odabano, qui est d'ailleurs quelqu'un de... Je ne l'ai pas vu souvent, mais les seules fois que je l'ai vu... est en nature quelqu'un de très gentil, de plus gentil que certains politiques que nous avons vus. Mais il s'agit du fait qu'à la tête de plusieurs préfectures aujourd'hui, il y a des colonels, qu'à trop de postes politiques, il y a des officiers, etc., l'administration. Moi, je suis républicain. Et en tant que républicain, je considère que l'administration doit être civile. Et qu'en principe, on aurait dû avoir une armée de métiers. Vous voyez, dans une armée de métiers, vous voyez le travail que, comment on appelle, c'est ANASAP, et qui est dirigé par un général.
Oui, ANASAP.
Voilà un exemple. Que dans une armée de métiers, ça veut dire que les soldats, surtout les hauts soldats, ont de différents métiers. Et que même le jour où vous allez à la retraite, ou même pendant que vous êtes en fonction, vous pouvez faire profiter au pays de ce métier-là. C'est par exemple dans ce cadre que si le général est dans les travaux publics, a fait les questions d'environnement, à la fin de sa carrière, les militaires, ils vont plutôt en carrière. Il peut avoir 5 ans, 10 ans, qu'il peut encore donner au pays à la tête des agences comme la NASAP, comme l'Agence nationale de protection civile, etc. Voilà un peu ce que nous voulons, une armée de métiers. Une armée dans laquelle il y a des spécialistes ingénieurs en assainissement, que lorsqu'il y a inondation dans ce pays-là, c'est ces soldats-là qu'on voit descendre, qui donnent de l'ordre, qui font des choses, etc. Et non... On évolue vers une administration trop militarisée. Voilà un peu, je ne sais pas si vous comprenez la nuance de ce que je veux, parce que l'administration ne se gère pas avec du commandement. Vous savez, dans l'armée, on est au garde à vous. Non seulement on est au garde à vous, mais dans l'armée togolaise, on est au garde à vous, les fesses bien serrées. C'est ce que eux-mêmes ils disent quand les soldats veulent blaguer. Mais l'administration obéit à autre chose. L'administration n'obéit pas au garde à vous. Ne fonctionne pas au garde à vous.
D'accord. Abbas ?
Oui, par rapport à la mobilisation dont vous avez parlé tout à l'heure, il y a eu des effets. Effet Ventra Boubo, après effet Jean-Pierre Fabre avec l'élection en 2010, je crois, et maintenant effet Tipi Achadam. Et très souvent, cette population a été déçue par ces effets. Ces effets. Souvent, c'est comme il y a du neuf qui arrive et que la population a confiance à cet effet. Et après, cette confiance que la population met à cette personne neuve, nouvelle, ça s'estompe par rapport aux divisions et aux problèmes au sein de l'opposition. Aujourd'hui, vous parlez encore d'un effet. Peut-être que Sylvain, lui, ne sera pas la politique. Je ne sais pas. Si quelqu'un sortait comme Jean Kissi, c'est un nouveau effet. Qu'est-ce qui garantit à cette population-là qui va vous suivre qu'ils ne seront pas dessus? Parce que c'est cette déception-là qui ont, au niveau de l'opposition, qui ont galvaudé la lutte démocratique qui a été menée depuis 90 jusqu'à nos jours.
Monsieur Jean Kissi ?
Oui, vous avez raison. Il a touché un problème sérieux qui nous enquiquine nous-mêmes et on y réfléchit. L'honnêteté en politique aussi, l'honnêteté toute politique veut dire que quand vous commettez des erreurs, il faut les reconnaître. Vous savez, lorsque on a fait la C14, du vivant d'Agbouibo encore, C'est ici, devant ça, que j'étais venu. Et j'ai fait des mea culpa. Au sein de l'opposition, on m'a reproché d'avoir fait des mea culpa. Comme si on n'a pas besoin de faire de mea culpa quand vous commettez des erreurs. On n'est pas à la tête de l'opposition parce qu'on est des dieux. Vous vous souvenez même lorsque nous avons fait notre conférence, la dernière conférence débat à Broda Home. Mais M. Nathaniel Olympio a fait des excuses publiques au peuple.
Tout à fait.
Mais des gens dans l'opposition nous ont reproché par médias interposés. Mais pourquoi nous on va faire des mea culpa? Je suis d'accord, totalement d'accord avec mon ami Abbas que ce que les populations togolaises ont fait est immense et que l'erreur provient de la façon dont les chefs de l'opposition ont géré les résultats de ce que les populations ont fait. Ça veut dire que le défi que nous avons en tant que responsables, c'est que l'ultime fois que nous essayons d'amener le peuple à réaliser le changement et à l'alternance, que nous n'avons pas le droit à l'erreur. Nous en sommes conscients. C'est pour ça que nous ne bondissons pas à pas de géant. Quand nous-mêmes nous réfléchissons, nous hésitons un peu avant d'évoluer, c'est parce qu'on veut se faire cette conviction qu'on ne veut plus commettre les mêmes erreurs parce que nous-mêmes, le peuple risque de nous faire la peau avant d'aller vers ce qu'il...
Mais M. Jacques, est-ce que vous ne faites pas les mêmes choses pour commettre les mêmes erreurs?
Dans notre façon de concevoir les choses, non. En tout cas, notre ferme conviction, notre honnêteté et notre volonté, nous voulons faire les choses autrement. Nous avons conscience de la façon dont nous avons géré les résultats de ces mouvements-là. Et à partir de ce moment, nous ne sommes pas infaillibles, mais nous voulons faire autrement.
D'accord.
C'est pour ça que nous prenons des précautions avant d'avancer.
D'accord. Vous pensez aujourd'hui que vous avez déjà le peuple avec vous pour avancer réellement?
Pas nécessairement. Et puis, tel n'est pas notre objectif. Notre objectif, c'est de faire de la sensibilisation, de faire un certain travail, et ça va arriver. Mais ce qu'on sait, c'est que le peuple, vous sentez, vous ne pouvez pas dire vous ne sentez pas ce qu'on voit partout au Togo dans toutes vos émissions. Vous sentez que ce peuple est révolté.
D'accord. Sylvestre?
Oui, Jacques, ici, vous avez présenté des excuses parce que vous avez fait des erreurs. Il y a plusieurs erreurs. Est-ce qu'aujourd'hui, siéger au CPC n'est pas une erreur?
Naturellement. Naturellement, le CPC, c'est de l'enfumage. J'ai jamais cessé de le répéter depuis longtemps. Parce que j'ai été un acteur privilégié. Au moment où le CAR était le vrai CAR, canal historique, c'est moi qui représentais le CAR au CPC. Et l'option, c'était, à chaque ouverture d'un événement comme ça, aller présenter ce qu'il faut faire pour que la crise togolaise s'estompe. Mais si on ne veut pas que vous en discutez, vous en allez. Ils ont fait la CNAP comme ça, et on a vu. Et à la fin de la CNAP pour aller vers le CPC, Maître Apevon était celui qui avait constaté que c'était de la grande fumisterie et qu'il ne faut plus y participer. Et il a quitté. Donc il n'a pas participé à ce CPC qui a amené à cette CENI qui a fait braquer les élections. Vous voyez les conséquences. Aujourd'hui, la même chose, ce n'est même pas renouvelé. On vous appelle et on va y aller. Il y a le risque. Il y a des gens qui vont là-bas en qui j'ai confiance. C'est-à-dire qu'il y a une telle confiance mutuelle entre nous que je ne peux pas venir ici les critiquer. Mais l'histoire récente de CPC, de cette CNAP et de ce CPC-là me montre que c'est de l'enfumage.
Alors, justement, je veux rester dans cette même veine pour poser cette question. Est-ce que vous avez l'impression, M. Jacques ici, que les partis politiques de l'opposition qui participent aux travaux alors de CPC sabotent plutôt votre lutte?
J'ai pas envie d'indexer les gens. Parce que j'ai l'impression que certains sont allés là-bas, ils croient pouvoir modifier quelque chose et que s'ils voient, ils font le constat, ils vont revenir. Donc, je n'ai pas envie d'être frontal. Mais ce que moi-même, j'ai vécu là-bas. Et l'histoire me dit que ce qui se passe là-bas, c'est de l'enfumage. Et les rapports que je reçois d'eux-mêmes nous montrent que c'est de l'enfumage. Puisqu'ils nous disent que lorsqu'ils sont allés, les mêmes revendications que moi, j'avais portées, qu'ils les ont portées. Et qu'on a dit qu'on les a acceptés. Mais aux deux ordres du jour, des deux derniers, aucun des points qu'ils ont évoqués n'est revenu, sauf la vie chère. Donc l'enfumage a encore commencé. Je ne sais pas si, à la prochaine, ils vont décider de ne pas y aller. Si je commence par taper sur eux et je constate que la prochaine fois, ils ne sont pas allés, C'est pour ça qu'il ne faut pas me faire avancer plus que comme une charrue, plus que le bœuf.
Est-ce que c'est une stratégie que le pouvoir utilise pour distraire un tout petit peu l'opposition?
Ah, moi, je savais, au premier CPC. Et je l'avais dit. Je savais, parce que quand tu veux faire la politique, comme on dit chez nous, au Tchondola, il toganto, tu dois savoir aussi recueillir un certain nombre de renseignements. Et je savais que le CPC, la CNAP, avait une mission. Et je l'avais dit sur plusieurs médias, dont Victoire FM. Et finalement, c'est à ça que ça a abouti. Donc je sais aussi que ce qui est en cours aujourd'hui, c'est de l'enfumage. Et que les gros problèmes qui ont évoqué, aucun de ces gros problèmes-là ne sera discuté là-bas.
D'accord.
Monsieur... À bon entendeur, salut.
D'accord. Oui, mais vous avez une question, oui, rapidement.
Lié au front, ne touche pas à ma conscience.
Oui, rapidement.
Selon certaines personnes, ils disent que ne touche pas à ma conscience en train de dévier de sa mission. Parce que vous luttez pour qu'on ramène la constitution de 92 et au même moment, vous demandez la libération des prisonniers politiques. Vous faites, est-ce que c'est dans la mission de touche pas à ma conscience?
Mais c'est les prisonniers de la C14 sont prisonniers parce qu'ils ont défendu la constitution de 92. Comment pouvons-nous défendre la constitution togolaise tout en les laissant en prison à faire comme s'ils n'existaient pas, à les oublier totalement? Au contraire. C'est maintenant même que nous sommes dans notre rôle.
La logique y est. D'accord. Alors, M. Jacques ici, nous allons maintenant donner la parole à nos compatriotes, puisque c'est le principe de l'émission. Ils nous ont écoutés, nous allons aussi les écouter à travers des questions qu'ils auront à nous poser. Et c'est sur le 90 86 35 35 91 36 63 75. Mais bien avant, nous faisons un clin d'œil à nos annonceurs.
93.5.
Canal FM. Canal FM.
Nous sommes de retour dans cette émission. Voilà, Monsieur Jean-Pierre Kissi, je vais vous prier alors de porter le casque qui est devant vous pour que nous recevions les questions des auditeurs 90 86 35 35. Allô?
Bonjour tout le monde.
Bonjour, comment vous allez?
Bien, merci à vous.
Ça va, Patrick?
Exactement.
D'accord, allez-y.
Bonjour, monsieur Jean-Kissi.
Bonjour, mon cher.
D'accord. Permettez-moi, dans un premier temps, de vous demander, monsieur Jean-Kissi, à chaque fois, nous constatons, à chaque fois, quand les leaders politiques sont reçus sur les médias comme ça, c'est-à-dire le problème, le nœud du problème même qu'ils mènent est la société togolaise. C'est-à-dire qu'on constate que vous, les leaders, vous attaquez directement le gouvernement. C'est bien beau, c'est de bonne guerre. Mais aucun leader politique ne fait cas de l'Assemblée nationale. Eux, ces derniers sont censés de contrôler l'action du gouvernement. C'est dans ce pays, au cours d'une conférence, ou bien au cours de la Cour des ministres, on nous a dit que la caution d'allocation serait diminuée. Suite à la conférence de presse, c'est resté intact. L'allocation plutôt augmente. Mais on n'attaque jamais. On n'attaque jamais l'Assemblée nationale pour voir. Voilà la conférence des ministres qui a stipulé que voilà, il y aura réduction pour la caution. Mais depuis, on ne sent rien sur le terrain. Quand dites-vous, vous les députés, vous qui représentez le peuple, quand dites-vous exactement? Il y a plein d'autres problèmes, mais vous passez, on a l'apparence que vous passez à côté des réalités, quoi. Sinon, vous voyez, vous souffrons trop dans ce pays. Le bol de maïs est à combien? Bon, vous méritez, tout à l'heure, vous avez évoqué les raisons que le ministre aussi a dit pourquoi vous n'allez pas marcher. Donc, vous ne pouvez pas changer de stratégie un peu aussi, un peu, au niveau de la lutte. Vous ne pouvez pas changer un peu pour voir ce que ça va donner et pour finir. Si aujourd'hui, M. Jacques, si ça c'est de vous à moi, si aujourd'hui le gouvernement vous appelle, s'il y a remaniement d'ici demain, on vous demande de rentrer dans le gouvernement, serez-vous prêt? Vous allez rentrer ou pas, comme le maire Gomado? Merci.
D'accord, merci beaucoup Patrick. Vos questions sont notées. 90, 86, 35, 35. Allô?
Oui, bonjour, Canada.
Oui, bonjour, comment vous allez?
Je vais bien, c'est Karim le Kassima.
Ah, Karim.
Oui, je salue.
Oui, voilà, Karim.
Oui, bonjour.
Voilà, allez-y.
J'ai une question pour vous. Je ne sais pas si c'est cela, si Dieu est honorable.
Oui, monsieur,
je suis un prisonnier. On a un garant de ce pays. On a un président de la République qui s'appelle son excellence Faure Sazoumane Simon. Moi, je préfère que vous adressez un courrier à raconter le président. vous parlez du cas du président, vous parlez du cas des prisonniers. Je sais que c'est lui seul qui peut décider. Quand son excellence décide cet après-midi libérer les prisonniers, on peut libérer les gens. Moi, je préfère que, comme le ministre qui vous tourne en rond, essaie d'adresser un courrier à vous, l'opposition, rencontrer le président de la République, discuter avec lui et libérer les pauvres des enfants qui sont à la prison. La prison, ce n'est pas une lieu qu'on doit souhaiter des gens, mais lui aussi pourrait vous comprendre, c'est mieux. Sinon, le ministre de l'Intérieur, là, ils vont vous jouer fatigué. Hein. Allez-y voir le président de la République directement, j'espère que ça sera mieux.
D'accord. Merci, Karim, pour la proposition 90-86-35-35. Allô?
Allô?
Oui, bonjour.
Bonjour.
C'est M. Nyamavo.
C'est Nyamavo, monsieur.
Allez-y.
Oui, salut, monsieur Kissi.
Bonjour, monsieur Nyamavo.
Bonjour. Oui, c'est l'opposition, même s'ils sont deux ou trois, c'est l'un courageux. Elle est courageuse parce que ce n'est pas facile de faire la politique dans un État dictatorial. Et ce qui ne marche pas dans l'opposition, c'est l'égoïsme. Il y a trop d'ego. On pense qu'on est en démocratie. On ne peut pas aller aux élections au Togo maintenant à la déférer parce qu'on est opposant. C'est ça qui fait échouer les élections. Les gens ne savent même pas qui allait voter. Mmh. Les dernières élections, là, on a vu les gens bâtir campagne même pour réunir, qui se disent, c'est-à-dire, on a profité pour créer des opposants, quoi. Ajouter à vous, la liste est longue, on ne sait pas qui voter. Vous voyez, la population interprète ça comme ça. Vous voyez que quand on est au gouvernement, on est compétent. Je fais le cas de M. Le leader d'un PDD.
M. Kagbara, vous voulez dire?
Non.
Agbeyomi. Oui.
Donc quand il était avec eux, c'était incompétent. Mais aujourd'hui, quand l'opposition veut aller vers eux comme M. Gomado, c'est incompétent. Avant, il n'était pas compétent. Mais quand on veut faire route avec le parti au pouvoir, on est compétent. Si aujourd'hui, M. Jankissi décide, il est compétent pour le parti au pouvoir. Donc ceux qui luttent pour que le peuple sorte de ce gouffre, c'est les courageux. Nous vous soutenons. Et un sage l'avait dit, si ce que je fais est bon, ce que je fais est bon, que Dieu me laisse continuer. Si ce que je fais est mauvais, que Dieu me bat la route. On a vu comment la conscience a arrêté en 2002, excusez-moi, c'est à son âme, en 2005, patatras. Alors maintenant, c'est toute la conscience qui est changée. Bon, si... Ok, l'adage, s'ils sont courts, bon, excusez-moi, hein, il faut que les gens réfléchissent bien. Hein, parce que si c'est une bonne chose, continuons. Si ce n'est pas une bonne chose, que cela s'arrête. Merci.
D'accord, merci beaucoup, M. Nyamavo, pour votre intervention 90-86-35-35. Allô?
Allô?
Oui, bonjour.
Bonjour, Pascal.
Oui, c'est Abdel.
C'est Abdel, bien sûr.
Allez-y.
Je voudrais aborder le sujet du cadre permanent de concertation. Alors, je voudrais demander à votre invité, est-ce qu'il faut aller participer à l'enfumage dont il parle, tout en espérant qu'à un moment donné, la raison s'emparerait de ce cadre, ou il faut rester à la maison et laisser continuer l'enfumage dont il est question, pour que les conséquences réjaillissent sur le peuple. Alors, à quoi il sert finalement? À quoi cette opposition sert finalement pour le peuple togolais? C'est ma question.
Merci. D'accord. Merci beaucoup, Abdel, pour votre question. 90, 86, 35, 35, 91, 36, 63, 75. C'est à travers ces deux numéros que vous pouvez réagir au Club de la Presse. Allô?
Allô.
Oui, bonjour, madame Messi.
Bonjour.
J'espère que vous allez bien.
Je ne vais pas appeler, mais bon, je dis bonjour. Tu fais un coucou à ça, c'est à Eva. Bon, je ne voulais pas appeler, mais bon, je l'ai fait quand même. Pour dire que ce peuple togolais-là mérite ses dirigeants. Vous méritez vos dirigeants-là. Je vais demander à M. Kissi, il y a un moment, il y a eu le CFP. Et puis l'arc-en-ciel. L'arc-en-ciel a été créé au même moment pour contrer le CSC ou pour le CSC ou pour la punir. Et puis on a cheminé. Il y a un parti qui n'a jamais, un parti dominant, qui est le parti nationaliste, UFC, ANC maintenant, qui n'a jamais collaboré avec le système, qui le combat plutôt. Et puis voilà, il y a eu 2010, 2017-18 déjà. Ceux là qui combattent le régime pour dire qu'ils ne sont pas bons, qu'ils les opprime, qu'ont-ils fait de mal pour que d'autres partis opposants se mettent contre eux pour réduire une lutte de 60 à 0, à quoi on assiste maintenant, à 0. Comment se fait-il? Et puis le cas de Kissi dans le temps n'a rien dit pour dire stop à ce que la DNCK est en train de faire pour réduire, pour plomber cette lutte-là, qui n'a pas de raison d'être, parce qu'on a une constitution qui dit un mandat de 5 ans. Il y a eu 2005 qui ne devrait pas arriver dans une république et la PG donne droit au régime de rester jusqu'en 2015. Pourquoi vous n'avez rien fait? Vous ne portez pas plainte, vous ne dites rien. Et ça continue jusqu'à 2024. Merci.
Merci beaucoup, Madame Essi. Je pense que Madame Essi, c'est la dernière, ou du moins, voilà, qui nous donne alors l'opportunité de recevoir notre dernier auditeur. On va recevoir notre dernier auditeur. Allô?
Oui, bonjour.
Bonjour, comment vous allez?
Ça va bien.
C'est Johannes.
Oui. Bon, je n'ai pas grand-chose à dire. Juste dire à M. Jean Kissi que ça, c'est un plaisir de l'écouter dans le cadre de la presse.
Merci.
Et seuls ceux qui ne savent pas, ou bien ceux qui peignent d'ignorer ce que nous avons au Togo comme dirigeants, peuvent vouloir critiquer les opposants comme quoi ils n'utilisent pas la bonne stratégie, tantôt ceci, tantôt cela. Moi, je vous dis du courage, parce que moi, je le dis toujours, Barack Obama serait né au Togo qu'il n'aurait jamais été président dans sa vie. Merci et bonne journée.
Merci beaucoup, Johannes. Merci pour votre intervention. Et là, nous revenons déjà en studio. Monsieur Jean Kissi, vous avez écouté les uns les autres. Il y a des questions qui sont posées. Et il y a Patrick qui posait la question concernant surtout le fait que quand vous venez sur les médias, vous attaquez alors au gouvernement sans l'Assemblée nationale. Et pourtant, il y a des revendications, ou du moins des besoins de la société ou de la population qui touche plutôt à cette Assemblée nationale, où l'Assemblée nationale doit vraiment faire beaucoup de choses.
D'abord, les questions sont uniquement posées à l'invité.
Non,
c'est l'invité.
C'est l'invité.
Ah, d'accord, ok. Non, mon ami a raison, c'est-à-dire que d'abord, il y a des assemblées qu'on a connues, vous savez comment nous les avons critiquées, mais le problème qu'il évoque, il a pris en compte. En fait, l'Assemblée fait les lois. Le gouvernement exécute les lois. Quand le gouvernement même fait prendre une loi et que le gouvernement ne l'exécute pas, l'incompétence, ce n'est pas l'Assemblée. C'est le gouvernement. Il a cité un cas palpable. Dans tous les pays du monde, dans les pays qui se respectent, il n'y a pas de pays où on dit que tu paies 12 mois de caution avant de rentrer dans une maison. Je ne sais pas de quelle fondation cette loi est venue, mais à partir du moment où vous... Dans les pays que je connais, on fait 3 mois, simplement. Voilà. Mais jusqu'à ce que vous êtes descendu jusqu'à dire, à la limite, on peut accepter 3 mois de caution, 3 mois d'avance. Ça fait 6 mois. Ça veut dire qu'on a coupé la poire en deux. Mais quand ce n'est pas respecté, quand une loi n'est pas respectée, il revient à l'exécutif de le faire respecter, ils ne bougent pas, ils ne font rien, ils sont là. Je ne sais même pas pourquoi ils ont conçu la loi, puisque c'est l'exécutif qui conçoit la loi, qui l'amène au législatif. Je ne sais même pas pourquoi ils ont conçu la loi pour l'amener, pour le faire voter. S'ils savent, c'est comme si c'était un effet publicitaire en un moment où ils avaient besoin de l'assentiment du peuple et puis après ils ont laissé tomber. On continue de prendre 12 mois aux gens. Où est-ce que j'ai menti? Je crois qu'on continue de prendre 10 mois, 11 mois, 12 mois aux gens.
Oui.
Voilà, dans la mise en application de la loi, c'est eux qui doivent faire respecter la loi et c'est eux qui doivent accompagner aussi ceux qui ont construit les maisons. Il y a, quand tu prends une loi... Ça veut dire qu'il y a des dispositions fiscales qui doivent l'accompagner. Hein. Ce n'est pas un truc qu'il suffit d'écrire. voilà, je trouve que mon ami a raison, mais tout revient à la façon dont ce pays est gouverné.
Karim demande que vous écriviez plutôt alors un courrier au président de la République pour ce qui concerne les détenus politiques, la libération alors des détenus politiques.
Moi, je ne suis pas contre, mais il faut reconnaître que vers la fin de la C14, nous avons essayé le processus déjà. Et nous avons constaté que ça a été bloqué en route. Vous savez, moi, l'une de mes difficultés aussi dans l'opposition, c'est que quand j'ai été éduqué à dire « oui, ça c'est bon, ça ce n'est pas bon », je reconnais que depuis que Pius Agbetome est au ministère jusqu'au ministre actuel, qu'au niveau du ministère de la Justice, il y a une certaine, tolérance, une certaine, volonté à régler un certain nombre de problèmes. Mais c'est le système qui est difficile. Vous savez, à la C14, on était allé, lorsque Nana nous demandait la liste, on en était allé jusqu'à 112. Et après, on a encore arrêté des gens. Mais il y a certains, M. Pius Agbetome a fait l'effort qu'on puisse les libérer. En suivant le dossier, nous savons nous-mêmes, avec toute sa volonté, les gymnastiques qu'il fait jusqu'à arriver à faire libérer un certain homme. Ce n'était pas facile, mais c'est le système. Donc c'est pour ça, moi je dis, la question n'est pas une question des hommes, c'est une question du système. Je sais que plusieurs des ministres aujourd'hui sont incapables. Mais regardez ce que le ministre de la Justice actuel est en train de faire dans le domaine des terrains. Moi, je n'ai jamais imaginé qu'un ministre aurait le courage de s'attaquer à des gens qui dominent le domaine des démarcheurs à qui personne ne touche. J'ai été étonné que M. Lamtougli, que je critiquais lorsqu'il était à la Cour constitutionnelle, qu'il fait un certain nombre de choses. Maintenant, pour arriver à libérer un certain nombre de prisonniers, il doit faire une certaine gymnastique parce que, au-delà de l'ODNTV, parce que le système même est comme ça. Et c'est tout le système. Et je suis d'accord dans ce sens-là que peut-être qu'il faut tenter la même procédure à l'endroit du chef de l'État.
D'accord. Abdel pose la question de savoir, et déjà vous parlez du CPC comme étant lors de l'enfumage, oui. Est-ce qu'il faut y aller ou pas?
Oui, mais c'est ce que je vous ai dit. Vous allez dans un cadre. Vous savez ce qui est prévu là-bas. Vous avez des renseignements et vous restez dedans. Mais est-ce qu'ils ont été contents du CPC qui a appuyé et conduit la CENI qui a organisé le braquage électoral du 29 avril? C'est ce que madame disait. Est-ce qu'on n'apprend pas de ces erreurs? Est-ce que quand ça a été fait, certains sont restés dedans jusqu'à voir que, mais à quoi ça aboutit ça? Ça aboutit à ces élections, ce braquage électoral du 29 avril dans ces conditions. Et là, moi, je félicite Jean-Pierre Fabre. Et dans ces conditions, Jean-Pierre Fabre a décidé de ne pas y aller. Après, on a dit, ah, moi, je suis allé dedans, j'ai vu, j'ai quitté. Mais à partir de ce moment, on ne peut pas faire la même chose et obtenir d'autres résultats. Mmh. À moins que je ne sais pas.
D'accord. Madame Essi pose la question, ça va. Déjà, il y a certains leaders politiques, surtout au niveau de l'opposition, qui déjà, quand ils viennent même d'ailleurs sur des médias, ils s'attaquent alors à d'autres leaders politiques de l'opposition. Comment la lutte peut être peut avancer dans ce sens?
Je souhaite que tous ceux qui ont le cœur à la lutte, tous ceux qui sont des vrais démocrates, qu'ils nous aident plutôt que de nous diviser. Les faits que Mme Essi évoque ne sont pas des faits justes dans leur juste valeur, parce que Arc-en-Ciel, le CST avaient travaillé ensemble. On fait beaucoup de manifestations ensemble. Ensuite, depuis lors, nous avons travaillé ensemble. Même les manifestations du lendemain de la Constitution, leur constitution là, nous avons essayé ensemble avec le groupe de David Dosset, de l'ANC, de FDR, de travailler ensemble. Donc quand nous essayons de travailler ensemble, il faut qu'ils nous encouragent, mais ressasser peut-être des trucs du passé qui ne sont pas juste positionnés pour continuer à nous diviser. Moi je crois que vous avez dit qu'il faut qu'on apprenne de nos erreurs. Mmh. Apprendre de nos erreurs aussi, c'est éviter ça. D'accord. Je ne souhaite pas rentrer dans ça.
D'accord. Nous sommes à la fin de cette émission. Votre mot de la fin, M. Jean Kessy?
Non, moi, le mot de la fin, c'est juste pour dire que le peuple doit être debout. Il y a quelqu'un qui a dit que, je ne sais pas, je n'ai pas l'expression en tête, mais que l'esclave qui ne veut pas lutter pour sa liberté n'a pas besoin qu'on s'apitoie sur son...
C'est Thomas Sankara.
Et je crois que ça, là, ça doit aller à la conscience et à la mémoire de tout un chacun des Togolais.
D'accord. Merci beaucoup, Jean, ici, d'être passé dans cette émission. Merci d'avoir accepté notre invitation. Sylvestre Béni, merci à toi d'être passé aussi dans cette émission. Merci, Estelle Koudzonou, d'être passé dans cette émission. Merci, Abbas et Issaka, d'être passé dans cette émission. Nous sommes à la fin. Merci à tous qui nous avez suivis, vous qui nous avez appelés. Merci à vous. Kiki Sousa a assuré la mise en onde. La mise en ligne a été assurée par Jérôme Akoutcha. Je suis Pascal Lossou. Je vous retrouve demain jeudi à partir de 11h pour un nouveau numéro de l'émission Club de la Presse. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.